Le débat africain. Alain Foucault.
Richard Bonnat, artiste camerounais de renom.
Ce que j'ai vu, entendu est révoltant et d'une arrogance qui ne dit pas son nom. Surpris, non, je ne le suis pas. La science d'aujourd'hui, de toute manière, dans sa grande majorité, est sans conscience. Tout ce folklore médico-business, et c'était, c'est juste pour endormir ce peuple africain. Faut pas se leurrer. Moi, j'aimerais tout de même m'attarder sur un point qui m'accable encore plus, c'est qu'aucun membre des gouvernements africains concernés ne s'est prononcé sur ce sujet macabre. Et c'est bien là où se trouve le mal. À ce jour, le grand mal de l'Afrique, c'est l'Africain qui ne sait pas dire non. Mais l'espoir est déjà là, ce sont ces jeunes. Nous les sensibilisons tous les jours et je leur dis encore par ce canal, réveillez-vous et soyez vigilants. Ces dirigeants inconscients qui ne se sont jamais souciés de leur population vont devoir faire avec une nouvelle Afrique, celle des jeunes. L'Afrique ne sera plus un élevage de cobayes. Qu'ils reviennent encore faire leur test ici, on les attend.
Tiken Jaffa Koli, artiste ivoiro-malien de renom.
Nous avons aujourd'hui des voix capables de dénoncer leur manigance. Donc on les attend. Et nous disons à tous les chefs d'État africains que celui qui va s'amuser à signer des accords dans le but de vacciner sa population, en tout cas aura affaire à toute la société civile africaine, à tous les leaders d'opinion en Afrique. Nous n'accepterons pas que ce qu'on a fait à nos ancêtres, à nos parents, qu'on nous le fasse aujourd'hui, alors que le monde est ouvert. Aujourd'hui, nous les attendons. Nous les attendons et dès que ça va commencer, nous savons comment est-ce que nous allons mobiliser notre peuple pour dire non à ce projet, sinon à cette vaccination.
Ils sont des centaines à exprimer ainsi leur indignation sur les réseaux sociaux ou sur les médias subsahariens. La colère est à la mesure de l'infamie, de l'insulte partout en Afrique. Comment peuvent-ils toujours envisager de nous utiliser comme des cobayes? Comment cela peut-il leur venir à l'esprit un seul instant? N'est-ce pas la preuve qu'ils nous considèrent toujours comme des sous-hommes? Au fait, n'est-ce pas ce qui s'est toujours fait dans le plus grand secret? C'est chez eux que la maladie fait rage, qu'elle décime les vieux, et c'est chez nous qu'ils envisagent de tester leur vaccin. Pourquoi ne font-ils pas ce test chez eux d'abord? Est-ce parce que nous n'avons pas les moyens de lutter contre ce virus que nous devons servir d'animaux de laboratoire? Petit assortiment de réactions écoutées ça et là sur les réseaux sociaux et les médias. La grossière sortie des deux scientifiques, Jean-Paul Mirage, chef de la réanimation à l'hôpital Cochin de Paris, et Camille Locht, directeur de recherche à l'INSERM, cette semaine sur une chaîne de télévision française, aura donné l'occasion à toute l'Afrique, des campagnes comme des villes, de dénoncer ce qui semblait jusque-là être une simple rumeur. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est consacré ce dimanche, en pleine crise planétaire de coronavirus, aux essais médicamenteux et vaccinaux en Afrique. Comment cela se passe exactement? Est-ce possible de faire des Africains des cobayes pour tester la toxicité et l'efficacité des médicaments pour le reste du monde? Plusieurs spécialistes, plusieurs scientifiques de renom au téléphone dans quelques capitales africaines et ici en France. D'abord à Paris, le professeur François Dabis, directeur de l'Agence française de recherche sur le sida et les hépatites virales. Le professeur François Dabis a pas mal travaillé sur ces sujets en Afrique aussi. Bonjour professeur François Dabis.
Bonjour.
Second invité de ce plateau, toujours en direct au téléphone à Paris, docteur Prissy Kamchwing, cardiologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, qui travaille aussi en ce moment sur les malades de Covid-19. Bonjour docteur Prissy Kamchwing.
Bonjour.
Notre troisième invité est en direct d'Abidjan, le professeur Seni Kwanda, qui est le président du comité d'éthique du Burkina Faso. Il est le professeur d'épidémiologie également. Je dois préciser que le comité d'éthique est l'organe qui évalue les protocoles qui lui sont soumis. Il donne un avis éthique aux dirigeants pour l'autorisation d'essais de médicaments. Nous devions avoir au téléphone, également en direct d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, le professeur Serge Éolier, professeur en maladies infectieuses au CHA de Trècheville. Il est chercheur au Centre des recherches sur les maladies infectieuses et pathologies associées, le CERMIPA à Abidjan. Pour l'instant, on a quelque peu de mal à le joindre. On espère pouvoir l'avoir d'ici la fin de l'émission. Je suppose que vous-même, si vous n'étiez pas devant votre téléviseur mercredi 1er avril dernier, vu l'indignation qu'ils ont suscité, vous avez été rattrapé par les propos de Jean-Paul Mira qui suggérait de réaliser les études sur un vaccin contre le coronavirus et notamment celle qui se concentre autour du vaccin du BCG en Afrique. Et le professeur Camille Loche qui acquiesçait en ajoutant qu'il réfléchissait à une étude en parallèle pour le continent. Quelle réaction, docteur Prissy Kamchouin, quand vous avez écouté ça?
Beaucoup de surprises et puis de colère. Puis un peu vraiment de déception de la part d'un professeur des universités d'avoir des propos aussi peu pensés, puis de ne pas avoir anticipé la portée de ces propos. On a tous conscience des difficultés économiques, de l'application du confinement et du retard des équipements des hôpitaux des divers pays africains pour préparer l'arrivée de l'épidémie du Covid-19. Néanmoins, j'étais un peu surprise que ce professeur n'ait pas proposé de réfléchir avec les autorités sanitaires locales aux alternatives de protection de la population. Et en plus, surtout, l'exemple choisi par M. Mira était quand même particulièrement malheureux, puisque les prostituées qu'il a évoquées, appel à ce scandale sanitaire qui a éclaté en 2005 concernant une étude américaine des foyers au Ghana, au Cameroun, au Nigeria, testant le ténophovir en PrEP dans la population des prostituées, dont la prévalence du HIV était très importante et où le taux d'exposition était également très important. Le scandale était surtout qu'en cas de séroconversion de ces prostituées, elles n'étaient pas prises en charge pour l'accès à un traitement, à une trithérapie, et que surtout cet essai avait été validé par les autorités sanitaires des pays concernés, sans grande vigilance vis-à-vis de cette population déjà particulièrement vulnérable sur le plan sanitaire et social. Donc le scandale était à la fois sur la proposition de l'investigateur et du promoteur qui ne souhaitait pas prendre en charge les patientes incluses dans l'essai, mais aussi de la part des autorités sanitaires qui n'étaient pas capables de faire face à cette infection à VIH qui était endémique et incapable de protéger les populations.
C'était scandaleux de partir en évoquant cet exemple-là. Mais sur le principe, vous avez été également choqué. Est-ce que ça n'arrive pas souvent que l'on fasse des tests de vaccins en Afrique?
Alors, sur les tests de vaccins en Afrique, c'est quand même très compliqué de savoir si on fait souvent des tests parce que, de toute façon, il y a des campagnes de vaccination en Afrique parce qu'il y a de toute façon des épidémies. Mais il y a une différence entre faire des premiers tests pour vérifier l'efficacité d'un traitement et faire des campagnes de vaccination massives. Là, l'exemple qui a été pris de la part de M. Mirap et M. Locke, c'était de faire un test éventuellement préventif des populations, alors qu'on n'a même pas mis en place des stratégies qui sont déjà éprouvées pour protéger les populations africaines. C'est-à-dire que là, on n'a pas de stratégie clairement établie. Je parle pour Cameroun parce que je suis d'origine camerounaise, mais je ne sais pas quelle est la stratégie des autorités sanitaires pour protéger les populations.
Alors, je vais me tourner vers le professeur Davis. Vous, lorsque vous avez entendu cette polémique, lorsque vous avez écouté ces propos, quelle a été votre réaction?
Écoutez, ma réaction, c'est d'abord de dire qu'il faut de l'apaisement. Beaucoup d'apaisement, car cette pandémie va extrêmement vite, se déplace maintenant et se trouve sur tous les continents. C'est un problème de santé dont tout le monde peut aujourd'hui percevoir l'intensité et le caractère sérieux. Mais c'est aussi devenu un problème de société qui bouleverse totalement nos sociétés. Et ce que nous avons appris en quelques semaines après, il faut bien le comprendre, c'est que la recherche pouvait avoir un rôle absolument clé et décisif pour aller vers des solutions. Je rappelle qu'aujourd'hui, les seules solutions avec un niveau de preuve à peu près correct que nous avons, ce sont quand même des solutions assez coercitives, assez complexes à mettre en œuvre. Je pense au confinement, je pense à la distanciation sociale, je pense aux mesures barrières. Et bien sûr, on le rappelle à vos auditeurs, nous ne disposons aujourd'hui que d'un traitement des symptômes de cette infection. Donc dans ce contexte, la recherche a une responsabilité toute particulière de rechercher des mesures préventives et des mesures thérapeutiques. Mais ceci ne peut se faire que avec un niveau d'apaisement élevé. Et donc je ne pense pas qu'il faut nécessairement continuer à faire enfler les débats sur les ondes avec des discussions.
Mais peut-être, professeur, est-il nécessaire d'en parler pour rassurer s'il n'y avait pas une arrière-pensée derrière? Parce que d'un coup, on a l'impression qu'avec ceci, il y a une rupture de confiance. C'est peut-être le moment d'expliquer que peut-être que ça ne se passe pas comme on le dit.
Alors écoutez, je ne crois pas qu'aujourd'hui on soit dans une perte de confiance. Ce qui se passe et ce qui se passera, j'en suis convaincu, c'est que la recherche comme l'action dans la lutte contre le Covid-19, le coronavirus, va se faire dans la transparence. En tout cas, en France actuellement, qui est un des pays les plus avancés dans la recherche sur le Covid-19, les choses se font en toute transparence. Et je suis convaincu que les recherches qui se feront dans d'autres pays se feront en toute transparence également.
On va en parler au fur et à mesure de l'émission, puisqu'on va évoquer d'autres cas. Il ne s'agit pas simplement du Covid-19, il s'agit du principe même des essais dans les pays, des essais médicamenteux ou des essais vaccinaux dans les pays. Je me tourne cette fois-ci vers le professeur Kouanda. Vous avez écouté cette polémique. Quelle réaction, vous qui êtes dans un comité d'éthique, qui travaillez justement sur ces questions épidémiologiques?
Bon, je pense que ma réaction va rejoindre celle de ma collègue cardiologue. Je pense que, effectivement, si les collègues français qui sont intervenus avaient montré la nécessité de faire la recherche en Afrique, aussi bien qu'en Europe, aux États-Unis, s'ils s'étaient tenus à cela, je crois qu'il n'y aurait pas eu de problème. Nous avons tous besoin de la recherche pour essayer de répondre à notre préoccupation de santé. Et en ce qui concerne le Covid-19, c'est un problème mondial. Et donc, l'Afrique devrait aussi prendre sa part dans le sens de la recherche pour trouver des solutions. Par contre, il n'est pas acceptable les propos qu'ils ont tenus, et surtout en donnant les exemples des essais qui n'ont pas du tout été conduits de la manière la plus éthique qui soit. Donc, à la limite, je pense que leurs propos frisent la désinvolture et puis, bon, l'irresponsabilité. Il faut le dire clairement. Et dans ça aussi, il faut le mettre aussi dans le contexte de la relation aussi que la France a avec l'Afrique. Voilà, il y a des ressentiments qui ne sont pas encore partis sur le plan social, etc. Donc, il faut que les gens mesurent leurs propos. Si les exemples qu'ils ont donnés n'étaient pas du tout bien heureux, ils avaient donné des exemples de ces biens conduits là d'accord.
Oui, mais lorsque le professeur en question dit oui, ils n'ont pas des moyens, ils ne sont pas préparés, les centres hospitaliers ne tiendront pas le coup face à la vague qui arrive et qu'il va peut-être falloir commencer par eux. En gros, je schématise, est-ce que vous ne trouvez pas que ça avait une justification à un certain moment donné? Là, je fais l'avocat du diable.
Non, je pense qu'il faut sérier les problèmes. Ce n'est pas ça qui doit être la justification. C'est pas, on est face à une épidémie mondiale. Alors, comment on fait pour prévenir? C'est tout. Le reste, les hôpitaux ne sont pas sûrs, on est d'accord. Mais là, il faut trouver aussi les solutions à ça. C'est pas ça la justification. Donc, parce qu'on n'a pas des hôpitaux au top, parce qu'on a des problèmes, alors on peut faire tout ce qu'on veut? Non, je dis non. Donc, il faut tirer. Ça, c'est un problème dont il faut trouver solution.
Mais c'est peut-être une des solutions, non? Ou pas?
Et non, la solution ne peut pas dire, comme ils n'ont pas ça, donc voilà. Non, dans le principe de faire la recherche, c'est faire la recherche pour que tout le monde bénéficie des fruits de la recherche. On s'en tient à ça.
Docteur Kamchouin.
Pour revenir justement à cette proposition et cette justification qui est tout sauf raisonnable, il faut quand même rappeler que la recherche clinique biomédicale répond à des critères internationaux d'éthique. Ces critères s'appliquent pour tout le monde, partout et tout le temps. Il s'agit quand même d'informer les patients, d'avoir des comités d'éthique, des comités de protection des personnes. Et donc, encore une fois, cet exemple était terriblement malheureux, mais c'était exactement ce qui n'avait pas été fait à l'époque. Donc, il faut comprendre ensuite, face à cet exemple, la réaction généralisée. Alors, bien sûr, moi, je suis entièrement d'accord avec M. Vadis, il va falloir de l'apaisement, et bien sûr que nous allons nous apaiser, et bien sûr que nous allons maintenant travailler pour protéger au mieux les populations africaines contre l'épidémie du coronavirus. Et je crois qu'il va falloir faire appel aux acteurs de terrain, les médecins, les ingénieurs, tous les acteurs qui jouent un rôle dans la chaîne de la santé publique, pour faire remonter les informations auprès des divers pouvoirs centraux et des diverses administrations, pour pouvoir protéger au mieux dans un contexte, nous l'avons tous bien compris, de frugalité économique et d'une application quasi nulle du confinement, parce que sur le plan économique, bien sûr, on ne peut pas penser confinement quand l'activité informelle est essentielle et majoritaire dans les pays concernés. Voilà. D'ailleurs, suite à cette polémique, j'aurais aimé quand même que M. Camilotte détaille les pays, parce que l'Afrique n'est pas un pays, mais on pense à faire des essais en Afrique, il eût été intéressant de
nommer. De dire lesquels pays, mais il y a quelques-uns qui se sont prononcés. On a entendu par exemple.
Et puis la RDC, tout à fait.
On a entendu par exemple la RDC parler de sa candidature pour un autre essai qui n'était pas probablement celui dont on parle. Professeur Dabis, on se souvient de quelques dérives qui ont conduit par exemple en 2001 à l'ouverture d'une action judiciaire. Une trentaine de familles nigérianes ont saisi un tribunal new-yorkais pour faire condamner le laboratoire américain Pfizer pour le test du Trovan, un antibiotique destiné à lutter contre la méningite. Et en 96, une expérimentation sur 200 enfants qui s'était soldée par la mort de 11 enfants et beaucoup d'autres avaient gardé des graves séquelles cérébrales et motrices. Alors, si les Africains se plaignent, c'est beaucoup plus parce qu'ils se disent, est-ce que ça ne se passe pas dans le noir, généralement, dans le plus grand secret? Vous qui avez travaillé sur l'Afrique pendant ces années-là, comment ça se passe exactement?
Eh bien, écoutez, je crois que vous avez autour de la table un président de comité d'éthique d'un pays d'Afrique.
Et Burkina Faso.
Il peut vous dire Faso. Eh bien, écoutez, au cours de toutes ces années, progressivement, s'est mis en place vraiment de l'expertise de très haut niveau dans les pays d'Afrique pour juger de manière de l'éthique et aussi de la science. Qui pouvait être proposé dans un partenariat entre chercheurs d'un pays donné et chercheurs français ou américains ou autres, etc. Et donc, moi, je suis extrêmement confiant et extrêmement rassurant pour vos auditeurs. Toutes les recherches qui se mènent actuellement sur le continent africain comme sur les autres pays se mènent avec toutes les autorisations et tous les garde-fous nécessaires pour que ceci se passe correctement. Des erreurs, il a pu y en avoir. Je ne méconnais pas qu'il n'y en a pas eu aussi, vous savez, dans des pays comme le nôtre. Donc on sait que ça a été possible. Mais aujourd'hui, il y a tellement de garde-fous que moi, je suis à peu près convaincu que les choses se passent globalement comme elles devraient se passer, c'est-à-dire un niveau d'excellence et d'éthique à peu près correct.
Professeur Zini Kouanda, là, il renvoie le professeur Davis à vous en disant que vous êtes un peu, on va dire, les gardiens du temple, ceux qui veillent, qui regardent ce qui doit être mis sur le marché ou en tout cas ce qui doit être proposé. Est-ce que ça se passe toujours normalement? Est-ce qu'il n'y a pas des petits malins, des laboratoires qui arrivent, qui s'installent et qui font des essais en douce?
Non, je pense que ça n'est pas possible actuellement qu'un laboratoire vienne s'installer dans un pays africain et fasse des essais en douce. C'est pas possible. C'est-à-dire que le processus s'est passé par les comités d'éthique et ensuite, après l'approbation éthique, il y a des autorités de régulation. Donc, c'est les comités d'autorisation des essais cliniques qui doivent également statuer avant que vous ne receviez donc une autorisation pour mener l'essai. Mais ce que je dois dire, c'est qu'on a les structures, mais on a les capacités aussi de ces structures. Et tous les pays africains ne sont pas au même niveau. Ça, il faut le dire.
Ça varie d'un pays à un autre, c'est-à-dire que ça peut encore arriver. Il y a des pays où le comité d'éthique, certains mettent en doute, on va dire, l'éthique même du comité d'éthique.
Bon, on va dire les capacités du comité d'éthique. Ça, je pense que c'est clair, tous les pays ne sont pas au même niveau. Et ça, c'est d'une part, et après, peut-être qu'on pourra discuter de la mise en œuvre même des essais, bien qu'ayant reçu, donc...
On va parler de ça dans la seconde partie. Dans cette première partie, d'accord. Je voulais que l'on fasse un état des lieux. Est-ce que ça existe?
Voilà.
Des gens qui proposent, des gens que l'on rejette?
Dans presque tous les pays, maintenant, il y a des comités d'éthique, mais je dis qu'il y a les comités, mais aussi il y a leur capacité. Et tous les pays ne sont pas au même niveau. Ça, c'est une réalité.
Mais le professeur Dabis, vous disiez à l'instant que vous avez rencontré des gens de grande capacité. C'était dans l'ensemble des pays ou bien dans des pays bien précis et lesquels?
Écoutez, je ne veux pas donner des bons points ou des moins bons points à certains.
Ce serait peut-être intéressant à savoir.
Non, mais je vais donner une appréciation générale. C'est qu'au cours des 20 dernières années, et oui, en effet, vous avez plusieurs des personnes qui interviennent sur ce plateau ont mentionné le VIH-SIDA comme un ensemble de recherches bien particulières. Eh bien oui, au travers des recherches sur le VIH-SIDA, beaucoup de progrès ont été faits, à la fois dans la construction des projets, mais aussi dans l'examen dans les pays, et notamment l'examen éthique de la manière de le faire. Et je crois qu'aujourd'hui, la très très grande majorité des pays africains ont des structures de très haut niveau, avec des scientifiques, et pas uniquement des scientifiques, dans un comité d'éthique, il y a tous les représentants de la société civile, il y a parfois des religieux, il y a parfois des tas d'autres experts apportant d'autres angles. Et moi, je suis convaincu que dans l'immense majorité des pays, en tout cas ceux que je connais, les comités d'éthique et les autorités réglementaires qui décident si oui ou pas il se fera une recherche dans leur pays sont d'un excellent niveau et on peut être rassuré de la manière dont cela se fait.
Justement, la recherche, c'est important. important. On va parler dans la seconde partie de quelles recherches, et puis si on ne fait pas de recherche en Afrique, on est bien obligé de se tourner vers d'autres. Comment ça se passe exactement? Qui fait de la recherche sur quoi et comment c'est accompagné? Vous avez vécu cela, docteur Davis, et puis le docteur Kouanda est sur le terrain également. On en parle dans la seconde partie, dans la suite de ce débat africain consacré justement aux essais thérapeutiques, aux essais vaccinaux en Afrique. Restez à l'écoute. Après le journal, on se retrouve dans une dizaine de minutes.
Le débat africain. Alain Foucault.
L'Afrique doit-elle s'inquiéter, doit-elle redouter de devenir le champ d'expérimentation sauvage des laboratoires pharmaceutiques? Faut-il craindre de faire des Africains des cobayes à leur insu pour les tests de vaccins de tout poil, notamment en cette période de course contre la montre imposée par le coronavirus? Les réseaux sociaux bruissaient déjà de ces rumeurs sur des personnes qui s'apprêtaient à la faire en douce lorsque les propos des deux scientifiques à la télévision sont venus les conforter dans l'idée que certains envisageaient de faire des tests en Afrique. Désormais, la crainte et la méfiance se sont installées un peu partout sur le continent. Est-ce possible que l'on puisse le faire sans l'assentiment des concernés? Cette suspicion légitime ne risque-t-elle pas, dans le même temps, de freiner toute coopération dans les domaines de la recherche scientifique et vaccinale, pourtant indispensable sur le continent pour vaincre les nombreuses maladies qui le menace. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à ce sujet qui enflamme les réseaux sociaux et la presse africaine depuis mercredi dernier. Avec plusieurs invités, plusieurs spécialistes, plusieurs scientifiques de renom au téléphone dans quelques capitales africaines et ici en France. D'abord à Paris, le professeur François Dabi, directeur de l'Agence française de recherche sur le sida et les hépatites virales. Le professeur François Dabi a pas mal travaillé sur ces sujets en Afrique aussi. Second invité de ce plateau, toujours en direct au téléphone à Paris, docteur Prissy Kamtchoun, cardiologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, qui se consacre en ce moment aux malades du Covid-19. Notre troisième invité est en direct de Ouagadougou au Burkina Faso, le professeur Sini Kouanda, le président du comité éthique du Burkina Faso, épidémiologue. Je dois préciser que nous attendions également en direct d'Abidjan le professeur Serge Éolier, que nous ne parvenons toujours pas à joindre au téléphone. Dans la première partie de ce magazine, on a fait un peu l'état des lieux, on a posé la question de savoir si c'est possible qu'un vaccin puisse rentrer sur le continent. Dans cette seconde partie, j'ai envie que nous progressions un tout petit peu. Il faut de la recherche sur le continent. Il faut aussi que l'Afrique participe à cette recherche. Du point de vue de la recherche, est-ce que vous en avez les moyens sur le continent, professeur Kouanda?
Je crois qu'il faut avoir le courage de dire qu'il n'y a pas beaucoup de financements nationaux ou africains pour la recherche. Et ça, c'est une insuffisance majeure. Ni les organismes africains, ni les États ne financent véritablement la recherche. On a des universités, on a des centres de recherche, on a pas mal de chercheurs, mais franchement, il faut avouer qu'on n'a pas beaucoup de financement interne ou bien de financement africain pour la recherche.
Mais sans moyens, on ne peut pas faire de recherche.
Oui, justement. Et quand vous prenez, par exemple, l'Institut de recherche en sciences de la santé, dans lequel je suis le chef du département de santé publique, sur le budget annuel de la recherche, je dis bien consacré aux activités de recherche, on va dire que 95% des financements sont des financements internationaux.
Oui, la messe est dite dans ce cas-là. Professeur Davis, vous qui allez sur le terrain, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'argent là-bas et que l'argent vienne du Nord fait qu'on impose directement sa règle, ses lois, ses pratiques et même certains produits?
Alors, écoutez, je vais être assez rassurant sur ce sujet, mais aussi, constater qu'en France, nous avons aussi des problèmes de financement de la recherche.
Mais pas du même ordre quand même.
Pas du même ordre, mais malgré tout, notre président de la République, depuis que l'épidémie de Covid a commencé, a lui-même fait le constat amer que la recherche n'était pas financée au niveau qu'il était nécessaire d'avoir pour apporter des réponses dans des délais corrects. Il a fait plusieurs interventions sur ce sujet. Donc le problème du financement de la recherche est un problème très international. Alors pour en revenir à la question de la recherche sur le continent africain, je conviens tout à fait avec notre collègue Burkinabé qu'elle n'est pas assez financée également. Il y a peu de mécanismes qui sont prévus sur ce sujet. J'ai la chance, dans l'agence que je dirige, la NRS, d'investir à peu près un quart de l'argent qui m'est confié par le gouvernement français sur de la recherche qui va être menée par des collègues africains, avec des collègues français sur le continent africain. Ce sont des choix prioritaires que nous avons faits. Et j'ai l'honneur de dire que nous avons décidé, sous la responsabilité de mes ministères de tutelle en France, cette semaine, 1er avril, d'ouvrir un appel d'offres spécial sur la recherche sur le Covid dans les pays à ressources limitées, parce que ça nous semblait une urgence absolue et qu'il fallait faire quelque chose. Et nous avons été suivis 2 jours de plus tard, c'est-à-dire vendredi 3 avril, par l'Europe, avec un mécanisme qui s'appelle EDCTP, qui mettra également de l'argent à la disposition des chercheurs, alors lui, strictement, exclusivement sur le continent africain.
Alors, pourquoi on met tant d'argent sur le Covid-19, justement? Là, je lis une réaction sur Internet qui dit « On met beaucoup d'argent sur le Covid-19 ou sur d'autres maladies qui tuent moins que le paludisme en Afrique. » Et en disant « Si vraiment le souci était d'aider les Africains, ce serait le paludisme qui fait largement plus de morts. »
On est sur une urgence. On est sur une urgence, comme je l'ai dit, une urgence sanitaire, une urgence mondiale, une urgence de société, un virus qui déferle, qu'aucune population humaine n'a jamais, à laquelle elle n'a jamais été exposée. C'est inédit dans l'histoire moderne de la médecine et de la science. Je trouve qu'il est plus que normal qu'on s'en occupe vite, car les conséquences peuvent être totalement imprévisibles. En faisant ça, on ne doit bien sûr pas arrêter les programmes de recherche sur les maladies prioritaires autres. Vous en avez mentionné une, le paludisme.
Le paludisme, qui fait 1 million de morts chaque année.
Bien sûr, vous savez, je pense que vos auditeurs le savent, qu'il y a beaucoup de recherches financées sur le paludisme, et on a fait des progrès à certains moments, puis ces progrès ont été moindres, puis repartent, etc. Pour ma part, mon agence ne s'occupe pas du paludisme, mais elle s'occupe de la recherche sur le sida et les hépatites virales, et je peux vous assurer que ma priorité absolue, c'est de maintenir les programmes de recherche en cours et s'assurer qu'ils vont être menés à leur terme, sans mettre en péril, bien évidemment, tout ce que nous faisons. Donc.
Mais vous comprenez, professeur Kouanda, ceux qui disent « ce qui tue le plus sur le continent, c'est le paludisme », peut-être qu'on devrait mettre un accent particulier dessus, un peu plus que sur le Covid-19. Est-ce que vous comprenez cette réaction ?
Je comprends cette réaction, mais je vais même plus loin. Parce qu'en fait, ce que le professeur David a dit, c'est que vous prenez Covid, l'ANRS a lancé un appel, EBCTP a lancé un appel, l'Union européenne a lancé un appel pour la recherche. C'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce que nos dirigeants, qu'est-ce que nos organismes sous-régionaux africains ont fait? Jusqu'à présent, rien. Sur le paludisme, les financements, effectivement, il y a eu ces dernières années beaucoup de financements sur les essais vaccinaux sur le paludisme. Mais tout ça, c'est des financements internationaux. Alors que la maladie, c'est d'abord nous qu'elle tue.
Absolument.
Mais pourquoi aucun organisme africain, pourquoi aucun État africain, etc., ne s'est penché sur la question? C'est quand même nos problèmes à nous.
Absolument.
Donc je suis pas, je dis, il y a le niveau international, je suis d'accord, mais on ne peut pas seulement s'en tenir là.
Tout attendre des
que
autres.
Nos organismes, l'UOMOA par exemple, l'OAS,
l'Union africaine,
etc. Mais c'est quoi ils font?
Alors lorsqu'on écoute ça, docteur Kamchouin, on se dit peut-être qu'il faudrait que l'on comprenne que si on vient pour faire des essais, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de véritable recherche sur le continent.
Oui, alors on peut
du moins
ça,
les moyens.
On n'a pas les moyens, néanmoins, il y a quand même un petit peu de recherche qui se fait sur le continent, puisque M. François Dabis a tout à fait décrit son action sur le continent africain. Mais moi, je voudrais revenir sur, justement, ces actions et cette recherche qui est faite. Déjà, actuellement, il serait souhaitable qu'il y ait une appropriation de la science par les chercheurs africains sur le continent, parce que la recherche qui est faite, même dans des partenariats, des coopérations avec des agences comme l'ANRS par exemple, c'est de la recherche française sur le continent africain. Et elle s'en ressent lors, par exemple, du contrôle des données collectées et surtout lors des publications. Le choix des premiers auteurs et des derniers auteurs qui est stratégique dans les publications, et on sait que le milieu de la recherche scientifique est extrêmement concurrentiel à l'échelle internationale, c'est extrêmement important. Et on sait que, je parle là pour la recherche cardiovasculaire dans mon pays, au Cameroun, les projets de recherche clinique qui sont menés conjointement avec des équipes française se solde quasiment exclusivement par des publications dont les premiers et derniers auteurs sont français. Donc, bien
mais
sûr,
qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Celui qui finance.
Bien sûr que la recherche est internationale et bien sûr que c'est ainsi qu'elle prospère. Il faut continuer les coopérations. Néanmoins, je crois que là, c'est l'action politique qui là est essentielle pour que la recherche africaine se fasse par les Africains et qu'elle soit appropriée par les Africains pour que nous puissions aussi apporter notre contribution. Parce que là, c'est simplement les pays du Nord qui viennent apporter leur aide stratégique ou bien qui viennent appliquer parfois des idées scientifiques. Ce qu'il faut, c'est qu'au décours, les équipes de recherche locales aient autant de bénéfices, à savoir des publications à leur nom, et puis le développement de laboratoires qui fonctionnent de manière complètement indépendante. Ça permettra peut-être aussi de solliciter plus facilement les appareils d'État pour améliorer les financements.
Alors, avec l'immense coût du Covid-19, justement, dans les finances des États qui finançaient jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la France par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça s'arrête tout simplement, toutes ces recherches sur le continent, professeur Kouanda?
Non, je ne pense pas que les recherches vont s'arrêter sur le continent. Et il n'est même pas souhaitable que ces recherches s'arrêtent.
Ce n'est pas un souhait, mais dans le même temps, quand on voit ce qu'on dépense pour le Covid-19 dans l'ensemble des pays du monde, est-ce que l'Afrique sera encore une priorité dans cette recherche-là?
Non, je pense que tant qu'il y aura des problèmes de santé, il faut qu'on trouve les ressources pour faire la recherche, y compris en Afrique.
Oui, mais les ressources viennent presque toujours du Nord.
Je le dis et je rejoins ma collègue, il faut, et je réinsiste là-dessus, les chercheurs africains doivent se battre pour que des financements internes puissent être mobilisés à l'échelle des États, à l'échelle donc des organismes régionaux, pour qu'on puisse faire effectivement la recherche et qui répondent à nos préoccupations de santé. Et je suis pour la collaboration, je suis d'accord avec vous, je suis pour effectivement la collaboration, pour international, etc. Mais je suis également pour qu'il y ait des financements domestiques, qu'il y ait des financements africains pour faire de la recherche.
Alors l'INSERM corrigeait en disant, nous avons dit qu'on devait faire les recherches, ou en tout cas les essais, parallèlement en Afrique aussi, que ce n'était pas seulement l'Afrique. Est-ce que aujourd'hui, très concrètement, tout ceci ne menace pas la coopération dans ce domaine qui est indispensable, celui de la recherche et celui des essais, tout simplement, docteur Davis?
Écoutez, je ne crois pas qu'on va aller dans cette direction. D'abord, notre collègue du Cameroun a dit tout à l'heure quelque chose qui est à la fois possiblement, ça doit exister, que des recherches soient dominées par les partenaires étrangers. Mais en tout cas, dans le champ qui est le mien, le VIH, les hépatites virales, nous sommes extrêmement attentifs à ce que les projets soient coportés par un investigateur du pays et un investigateur français. C'est même la règle que j'impose, moi, dans les appels d'offres. Et après, ils doivent intelligemment se partager les places d'auteur dans les publications scientifiques. Je pense que l'évolution, elle se fait déjà dans cette direction. Ça fonctionne pas toujours parfaitement, mais on voit qu'on va vraiment dans la bonne direction. Et puis, il y a peut-être un truc qu'on a dit depuis tout à l'heure, et en tout début de votre émission, et il faut revenir là-dessus. Il ne faut pas non plus qu'on diabolise l'industrie pharmaceutique. Nous ne pourrons faire de la bonne recherche biomédicale qu'avec des partenariats publics-privés. Aujourd'hui, c'est impossible pour le public, pas plus dans les pays africains qu'en France, de faire toute la recherche qui est nécessaire pour avoir des développements, et notamment des développements de vaccins et de médicaments. Donc il faut savoir intelligemment faire des partenariats publics-privés comme nous faisons des partenariats Nord-Sud.
Docteur Kamchouin, vous voulez réagir à ceci?
Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec M. Vadis. La recherche biomédicale est intrinsèquement liée avec le développement industriel du médicament et du dispositif médical également, puisque c'est mon cœur de métier. Néanmoins, il faut qu'il y ait des éléments de régulation et de contrôle et de protection des populations, et c'est ce à quoi servent les autorités sanitaires. Et quand vous avez parfois des situations étatiques peuvent être un peu défaillantes ou un peu fragiles, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir des dérives. Elles ont déjà existé par le passé, je les ai rappelées tout à l'heure. Mmh. Et effectivement, c'est un triptyque entre l'industrie biomédicale, la recherche, les chercheurs, les médecins, et puis l'État qui régule, qui regarde, qui est vigilant et qui protège. Voilà, c'est les trois fonctionnent ensemble. Effectivement, si vous retirez un des éléments, eh bien, bien sûr, votre équilibre est tout de suite beaucoup plus fragile, et c'est la porte ouverte aux dérives. Mais nous sommes entièrement d'accord avec M. Ladis là-dessus. Ouais. Penser que la recherche peut ne pas se faire avec l'industrie, c'est un raisonnement peut-être un peu court, et puis c'est surtout se priver de ressources financières conséquentes. Et
comme oui, mais dans le même temps, on vous dit le business des industries pharmaceutiques, quelquefois prime, c'est-à-dire on a du mal à imaginer celui qui est en train de faire du business, de gagner de l'argent sur un produit, et l'éthique, et on va dire la morale, la gentillesse, la coopération, hein, où tout Exactement. Le monde est gentil.
Non, mais je suis entièrement d'accord. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir des États forts et qui répondent à leur mission, à savoir protéger leur population sur le plan sanitaire et économique et politique. C'est ce à quoi sert un État. Et bien sûr que le business peut se développer s'il n'a aucune marge, si on ne lui pose pas de limites. Bien sûr que ce type de scandale ne peut pas se produire dans n'importe quel pays. Ça s'est produit dans ces pays justement parce qu'il y avait des défaillances des autorités en place.
Alors comment savoir quels sont les tests que l'on peut faire en Afrique, parce qu'il va falloir rassurer les gens, puisque après cela, tout le monde regardera un peu ces vaccins qui arrivent et ces tests en se disant, est-ce que c'est pas encore une histoire pour nous stériliser comme on a pu lire ça et là? Comment savoir que tout est propre, que tout est dans l'ordre, professeur Kouanda?
Je pense que ça, c'est le rôle effectivement des États.
Oui, mais comme il y a un déficit de confiance avec les États, on se tourne vers les scientifiques.
Oui, non,
on dit, dites-nous ce qu'on va faire.
Pas que des comités d'éthique qui soient suffisamment forts, qui prennent leurs responsabilités, mais il faut aussi de la transparence. Parce que nos populations ont besoin de comprendre, de connaître, etc.
C'est ce que disait le professeur
Parfois,
Dabi tout à l'heure.
Quand je suis les communications aussi, et ça c'est l'un des problèmes aussi qu'on a, c'est que parfois, nous avons l'impression, même nos autorités ne comprennent pas ce qui se passe.
C'est pas que là où ils ne comprennent pas grand-chose, mais bon, c'est un autre débat. Oui.
Voilà. Mm-hmm. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas communiquer. Or, il faut communiquer dans la transparence. Mais donc, s'il y a des essais qui doivent s'effectuer, il faut qu'on explique clairement aux populations quels sont les objectifs donc de cet essai, etc. Et comment il va être suivi?
Mais on est d'accord qu'il faut continuer les essais, qu'on ne peut pas, parce qu'il y a eu ces propos-là, dire attention à tout ce qui arrive.
Non, mais
c'est absolument indispensable, la recherche.
Les populations feront beaucoup plus attention à ce qu'on veut faire. Et ça, c'est les citoyens aussi ont le droit de s'organiser pour comprendre effectivement ce qu'on doit faire. Mais on ne va pas arrêter parce qu'il y a eu deux personnes ou trois personnes qui ont dit ceci ou cela. Je pense que ce ne serait pas non plus juste.
Docteur Kamchouin, comment rassurer les gens? Comment dire que ce n'est pas fini les essais et qu'il en faut sur le continent, sinon on ne s'en sort pas?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois qu'il y a un essai au Burkina Faso conduit par le professeur Agon concernant la pivirine. Donc bien sûr qu'il y a des initiatives en Afrique et qu'elles doivent être menées et que des publications seront tout à fait intéressantes. Non, ce qu'il faut pour les populations actuellement par rapport au Covid, c'est déjà avoir une stratégie de communication et une pensée sur la manière dont on va pouvoir protéger dans ce contexte de frugalité, on va dire, matérielle et économique, comment nous allons protéger au mieux les populations. Moi, je vais vous donner l'exemple du Cameroun, c'est mon pays, je ne peux pas vraiment vous parler d'autres pays. J'ai de la famille qui est sur place, donc je suis bien sûr très inquiète et j'attends des remontées du terrain pour comprendre un petit peu comment ça va se passer. Actuellement, il n'y a pas de stratégie, les populations sont laissées à elles-mêmes. Les écoles ont fermé, donc les enfants sont aussi privés d'éducation, il n'y a pas de masque, on n'a rien proposé et surtout on n'a pas donné de voie à suivre, c'est-à-dire que la population n'est pas informée de ce qui va lui arriver en termes de risque de propagation et de risque de complications respiratoires. On n'a pas proposé les mesures barrières de manière massive et puis on n'a même pas réfléchi à des alternatives au confinement. Bien sûr qu'on ne pourra pas confiner, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu réfléchir par exemple à la proposition de production de masques, peut-être de moins bonne qualité parce que nous n'aurons pas les moyens de produire des masques FFP1, FFP2, mais tout de même de produire des masques à distribuer de manière massive à toute la population pour une durée prolongée. C'est un exemple parmi tant d'autres. Avons-nous l'inventaire de la démographie médicale
Ça va être compliqué à faire et malheureusement on n'a plus le temps puisqu'on arrive au terme de l'émission, mais l'idée c'était de dire on ne va pas avoir peur de tous les essais qui peuvent être faits sur le continent.
On pourra rassurer la population si on l'informe déjà de ce qu'on fait pour elle avant même les essais. C'est-à-dire qu'il y a quand même des mesures qu'on peut mettre, de la transparence, de la communication et de l'action politique pour la population. La population se méfie de ces autorités. Pourquoi? Parce que ces autorités, elles ont déjà démontré leur incapacité à leur assurer une sécurité économique ou politique ou la capacité à traverser des crises parfois sécuritaires au Cameroun. C'est pour ça qu'il y a de la méfiance.
Alors, nous arrivons malheureusement au terme de cette émission en n'ayant pas évoqué d'autres aspects de cette vaste question des essais de vaccins et de médicaments en Afrique. Et ce qu'on devrait peut-être retenir de cette discussion, c'est d'abord l'importance de la recherche à laquelle les institutions et les États africains devraient accorder beaucoup plus d'intérêt, plus de moyens. On ne peut pas souffrir de tant de maux et attendre que les autres fassent de la recherche à votre place et s'alignent sur votre agenda. Mais dans le même temps, il faut, bien sûr, dans l'intérêt de tous, continuer de développer la coopération tout en restant particulièrement vigilant, très vigilant sur les essais proposés aux populations. Ce n'est pas qu'un monde de bisounours, le monde scientifique et les laboratoires. Il y a du bon et du mauvais. Il faut garder l'œil ouvert. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous souhaitons de bien vous protéger, de respecter les gestes barrières. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. L'atelier.